C'est bien, c'est bien. Et donc, il y a presque une année, j'étais à Berlin et je courais, je faisais le marathon de Berlin et j'étais fatigué à 10 km. Et là, je devais faire 42 km. Et là, à 20 km, je dis, ah, je vais pas terminer, c'est trop difficile. Et à 30 km, ah, il y avait une ancienne blessure qui s'est réveillée. C'était une blessure musculaire et c'est quelque chose que j'ai souvent dans le mollet ici. Et j'avais cette douleur qui était là. Et j'ai dit, mais comment est-ce que je vais terminer ma course avec une si grande douleur? C'est pas possible. Ça s'est réveillé, je pensais que c'était guéri, mais ça s'est réveillé de nouveau. Et donc vers 35 km, j'étais mort. Mais à 36 km, j'ai commencé à marcher. J'ai dit quand même, je vais aller plus lentement, je ne vais pas quand même exagérer. Et après avoir marché un peu, il y avait ce qu'on appelle le deuxième souffle ou le second souffle qui m'est tombé dessus. C'est super. Ouais, tu es fatigué. Et c'est un truc biologique. Hein. Ce n'était pas le Saint-Esprit, même si je pense qu'il avait sa place. Hein. Mais c'est quelquefois, on a le second souffle qui vient. Tout d'un coup, j'avais un peu plus d'énergie. Et même ma blessure, ça semblait partir. Et j'ai terminé. Je courais, je traversais la porte de Brandenburg, là, avec les acclamations. Bon, j'étais que 3 heures derrière le gagnant, qui a quand même fait le record du monde, un Kenyan. Mais j'ai terminé ma course et j'étais content, mais grâce au deuxième souffle. Et ce matin, je vais vous donner un deuxième souffle, parce que quelquefois, la route de la vie, hein, c'est une petite parabole ça, nous avons toujours nos courses. On doit courir, il y a des blessures, il y a des difficultés, et on doit terminer. Normalement, on veut bien terminer notre course, surtout notre vie chrétienne. Et quelquefois, il faut que Dieu souffle sur nous de nouveau. Et quand Dieu souffle sur nous, ce n'est pas juste pour nous donner de l'énergie, mais je pense que c'est aussi pour nous guérir de nos anciennes blessures. Et dernièrement, voilà, je pense que tout le monde est blessé. Hein. Je ne connais personne de la vie qui n'est pas blessé, soit physiquement, mais surtout dans son âme. On est tous blessés dans notre âme. Et je veux vous donner un petit verset de Zacharie. Hein. C'est le Zacharie 13. Zacharie 13 et verset 6. C'est étonnant de voir combien il y a des versets qui parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Mais Zacharie 13, c'est le dernier, avant-dernier livre de l'Ancien Testament, 6. Et on parle d'un prophète. Hein. Mais on lui dira, qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains? Et il répondra, c'est que j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Waouh! J'ai été frappé, j'ai été blessé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Et tout le monde sait, c'est pas les gens de l'extérieur, c'est pas les ennemis qui vous blessent, vraiment. Hein? Les gens qui nous blessent vraiment, c'est les gens de l'intérieur. Nos pires blessures sont attrapées dans la maison de ceux qui nous aiment. Alors, premièrement, dans la famille, nos familles quelquefois dysfonctionnelles. Qui n'a pas une famille dysfonctionnelle? Mais quelquefois, on est blessé au travail, la famille de notre entreprise. Et quelquefois, la maison de ceux qui m'aiment, c'est aussi l'église, hein, la maison de ceux qui m'aiment. Et on peut avoir des blessures qui nous frappent dans cette maison des gens qui m'aimaient. Et dernièrement, Dieu m'a montré que j'avais des blessures. Oh, moi qui, voilà,
Robert, je suis content et tout ça, mais quand même, il y a des moments que je vois des blessures. Et la blessure qui est le plus difficile pour moi, et je pense que pour beaucoup de gens, je pense qu'on a tous un peu cette blessure, qu'on a attrapée dans la maison de ceux qui nous aiment, c'est la blessure du rejet. Du rejet. On donne, et ça me blesse terriblement. On a tous des degrés différents de sensibilité par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui sont démolies et d'autres on porte quand même, on peut vivre avec. Mais c'est comme ma blessure musculaire en courant. Quelquefois ça se réveille et ça fait mal. Et c'est difficile de marcher avec tout ça. On porte quelquefois cette blessure de rejet dans la famille, au travail ou même dans l'église. On peut porter. J'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Et donc, je pensais à ça, surtout avec l'âge. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes ce matin. Il y en a. Mais je me suis rendu compte qu'avec mes cheveux gris, avec le temps qui passe, oui, il y a les jeunes, on est tous jeunes, on est toujours jeunes. Mais quand on vieillit, on perd des choses, n'est-ce pas? On perd des choses. Les cheveux. On perd. Les enfants quittent le foyer, souvent. Les enfants quittent le foyer. On les a aimés, et boum, ils partent. Merci. Et on aime ces personnes, mais quelquefois, ça nous laisse avec un sentiment d'avoir perdu des choses. Même quelquefois, on peut perdre notre ministère. On peut dire, voilà, j'ai tout donné et tout ça, mais il y a des changements. Un chef d'entreprise, il ne peut pas toujours garder, il doit déléguer. Et en déléguant, quelquefois ça se fait bien. Mais quelquefois, il y a des rejets, il y a des luttes de pouvoir, il y a des coups d'État, il y a toutes sortes de choses. Et quelquefois, quand on devient un peu plus âgé, on peut devenir meilleur, on peut devenir better, meilleur, un petit cours d'anglais, ou on peut devenir amer, bitter. On peut dire bitter ou better. Ça ne marche pas en français. Meilleur ou pire. On peut devenir better. Ou on peut devenir bitter. Oui, amen ou amer. C'est ça, amen ou amer. Si on est un chrétien, amen à la fin de sa vie. Merci Seigneur. Ou peut-être un chrétien amer. Et j'aimerais bien témoigner que j'ai toujours amen. Mais il y a 2 mois, j'étais en train de faire une balade avec un pasteur. C'était le gars qui était chauve là, qui a partagé la parole avec nous il y a un mardi soir là. Ouais, ouais. Et donc, je marchais avec lui, il m'a dit, « Robert, comment va ton ministère ?» Talalala, à une certaine situation. Et tout d'un coup, j'ai dit, « Blaf !» Et j'étais choqué. J'ai dit, « Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche, là ? Qu'est-ce qui sort, là ?» Mais je pense que j'ai dû parler 5 minutes sans arrêt, avec les noms des personnes, et ça. Et après, j'ai dit, « Mais Robert, t'es blessé. » Et j'ai dit au gars, j'ai dit, mais pardonne-moi, parce que là, j'ai vraiment vu. Et quelquefois, vous savez, il y a un petit fil attaché à la parole et le cœur. Et de l'abondance de notre cœur, la bouche parle. Et quelquefois, c'est très utile d'attraper une parole et de voir, mais ça vient d'où ça? Et pour moi, quand j'ai attrapé mes paroles, j'ai vu que j'étais blessé par un sentiment de rejet. Et en disant ça, j'accuse pas du tout les personnes, parce que c'est normal, la vie, quelquefois les gens ils se rendent même pas compte qu'ils te rejettent, surtout dans la famille. Souvent il y a des choses, et bon, quelquefois les gens ils se rendent compte vraiment et ils ont un plaisir malin à te dire les 4 vérités, je sais. Mais il y a des moments qui sont juste naturels, et il y a juste les passages de pouvoir, mais ça blesse quand même. Et avec tout ça, je dis, mais Robert, tu dois faire quelque chose. Et donc, je vais partager avec vous les 3 choses que j'ai faites pour m'aider à guérir un petit peu. Peut-être que ça va ressurgir, parce que tu en penses, on est guéri. Après, peut-être que je vais parler encore quand quelqu'un pousse le bouton. Mais bon, je suis en chemin avec comment je gère mes sentiments de rejet. Et donc, trois choses. Et donc, j'ai été beaucoup aidé en regardant la vie de Samuel, le prophète Samuel, encore dans l'Ancien Testament. Et j'ai regardé Samuel. Et 1 Samuel 7 et verset 9. Samuel, il était vraiment le prophète pour Israël. Il était leur papa, il était bien là. Et quand il y avait la guerre, on disait, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on va appeler Samuel. Et donc Samuel est venu, 1 Samuel chapitre 7 verset 9. Et Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel lui répondit. Alléluia, bravo Samuel. En voilà même Samuel qu'en prenant ce petit agneau de lait, combien là encore on voit Jésus, le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien Samuel, il était tout près du cœur de Jésus, même dans l'Ancien Testament. Là. Et donc Samuel était là, il était le père, il était le berger, il aidait beaucoup Israël. Il aidait beaucoup Israël. Et même, verset 12, toujours dans le chapitre 7, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Tchen et il l'appela au nom d'Ebénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et donc là, gloire à Dieu pour Samuel. C'est lui qui posait cette pierre, il était là, il posait les fondements, il était là pour aider Israël, pour être un serviteur de Dieu pour Israël. Et après verset 13, il dit que la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Et donc sa vie était une vraie bénédiction pour le peuple d'Israël. Et donc c'est super, bravo Samuel, merci Samuel. Mais voilà, le temps passe. Et chapitre 8, et il dit, lorsque Samuel devint vieux, oh, merci, il dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mes fils, il établit ses fils juges sur Israël. Mais là, il y a un petit problème, et un premier petit rejet peut-être pour Samuel, parce qu'il dit, verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Et donc ça a dû être difficile pour Samuel. Peut-être il était trop dans le ministère, il n'avait pas le temps de jouer au foot. J'imagine Samuel, le grand prophète, allez, on va jouer au foot aujourd'hui, on va sortir, faire un peu, balade. Non, je ne sais pas, mais bon, c'est de la culture du temps aussi, hein, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais ses fils ne le suivaient pas. Et il dit, ils avaient un penchant pour le profit. Recevez des présents et portez atteinte au droit. Et donc, là, je pense que pour Samuel, l'homme de Dieu, ça a dû être dur à gérer. Et il a dû sentir, voilà, l'échec et même le sentiment de rejet familial. Donc, déjà, il devait lutter avec ça quand il était un peu plus âgé. Une certaine culpabilité, un certain sentiment de rejet, que ses fils n'ont pas forcément suivi son chemin. Et que peut-être que ses fils ont même rejeté le Dieu que lui, il servait. Mais après, c'est pire, parce que, verset 4, « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent. » Alors bon, quelquefois c'est bien quand les anciens se rassemblent, hein, les réunions d'anciens et tout ça. Mais quelquefois c'est terrible, on est convoqué à une réunion d'anciens. Et donc Samuel, voilà, je suis convoqué, les anciens veulent me parler. Bon, je ne sais pas, tu sais, j'ai été blessé dans la maison de ceux qui m'aimaient, je ne sais pas combien de personnes ont été blessées dans des convocations d'anciens, des réunions d'anciens. Bon, peut-être pas, peut-être jamais, mais c'est dangereux quelquefois. Ça peut être une bénédiction, mais ça peut aussi être sous ces comités, ces machins. Et donc là, ils arrivent et ils lui disent, ah, là, je ne sais pas, si quelqu'un, si vous êtes convoqué, et la première chose que quelqu'un vous dit, ici, tu es vieux. Merci. Merci. Tu vois, c'est pas facile. C'est pas facile pour Samuel. Tu es vieux. Et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il dit, oh, je sais. T'as pas besoin de me rappeler de ça. Je sais. Et après, maintenant, on veut plus de toi. C'est ça. On veut plus de toi. Établis sur nous un système en roi. Établis comme en ont toutes les nations. On veut plus être dirigé prophétiquement. On veut plus être dirigé par l'inspiration de la parole comme ça. On veut un roi. On veut un système. Et là, c'était très dur pour Samuel. C'était très très dur pour lui. Et il dit verset 6, aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit. Et après, Samuel, il est blessé. Moi, je m'identifie quelquefois là avec sa blessure de rejet. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, premièrement, il commence à prier. Et il dit, Samuel pria l'Éternel, il prie. Avec tout ce moment difficile. Et donc ça, c'est ce que nous avons en tant que chrétiens, que les gens du monde n'ont pas. Les gens du monde doivent toujours avoir une solution humaine. Mais nous, on a une solution divine pour les pires blessures qui peuvent nous arriver. On a cette solution divine. On peut parler au ciel, on peut parler à Dieu. Et après, je pense que Samuel, bon, j'ajoute un peu. Parce que je pense que Samuel doit dire à Dieu, « Dieu, je me sens blessé. Je me sens blessé dans la maison de ceux qui m'aiment. Je me sens blessé parce que j'ai donné tant de choses et je n'ai pas la reconnaissance. Ils m'ont dit que j'étais vieux, que mes fils ne suivent pas et ils m'ont rejeté. » Et après, Dieu répond à Samuel et c'est ça, verset 7. Il dit, « Ce n'est pas toi qui rejettes. C'est moi qui rejette. » Et donc, je pense que parce que Dieu répond comme ça, c'est évident que Samuel dit, « Ah, Seigneur, ils m'ont rejeté. » Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais parce que Dieu répond comme ça, il dit, « Non, mais Samuel, tu sais, tout rejet, même ton rejet, ça finit sur moi. Ça finit sur moi. » Et donc, ça, c'est la première solution qu'on peut avoir. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire quand on est blessé, quand on est là en train de pleurer quelquefois devant l'Éternel. « Seigneur, je me sens rejeté, je me sens blessé, j'ai ce potentiel de que cette blessure devienne amertume et tout ça, et je ne veux pas devenir amer, je veux devenir amen. Je veux devenir better, not better. » Mais c'est une lutte. Et tout le monde a ça. Je sais que je ne suis pas le seul. Tout le monde, chaque jour, quelquefois. Mais oh, on peut progresser. On peut devenir bête. Et donc, la première chose, c'est de voir que ce rejet, cette vraie blessure que tu as, que ça tombe sur Jésus-Christ. C'est lui l'ultime rejeté. C'est lui qui est Dieu quand même. Il est venu chez les siens, il dit dans l'évangile de Jean. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et pas juste pas reçu, mais on l'a cloué sur une croix. Mais on dit, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Lui qui n'a fait que le bien. Bon, j'ai dit il n'a fait que le bien, mais il a vraiment défié l'hypocrisie. Il a défié la fausse religion. Et donc tout ça, ça a fâché les autorités. Donc, il a été rejeté. Et premièrement, quand nous sommes blessés, on peut regarder les blessures de Jésus. Parce qu'il y a une sorte, il dit, voilà, je compatis avec toi. Je compatis avec toi. Je sais exactement ce que tu souffres. Allez, donne-moi ta blessure. Donne-moi ton rejet. Ce n'est pas toi qui rejettes. C'est moi qui rejette. Et donc, je sais que c'est facile pour moi de dire ça, mais on n'a pas d'autre solution. Si on veut devenir better, un autre bitter, il faut voir les blessures de Jésus. Sinon, c'est 100% bitter, c'est 100% amer. Et le monde est rempli de personnes amères, fâchées, en colère, blessées, parce qu'ils n'ont pas su gérer cette amertume. Et après, on est malade, ça joue sur le corps, on ne dort plus, il y a beaucoup de choses. Et après, on va voir les psychologues, et les psychologues, ils peuvent nous aider. Hein. Je pense qu'ils sont formés, il y a de la valeur. Mais eux, ils n'ont pas cette capacité de racheter surnaturellement et de guérir la blessure. Quelquefois, il faut revenir, mais de voir la blessure de Jésus. Ça, c'est la première chose. C'est d'apporter cette blessure à Jésus. Ce n'est pas toi, premièrement, qui rejette, mais c'est moi. Donne-moi ta blessure. Et après Samuel, il arrive quand même à oindre une nouvelle génération. Il continue. Et je pense qu'il y a une deuxième clé. C'est pas tellement dans le texte, hein. Je reviendrai au texte plus tard, mais c'est juste quelque chose que moi j'ai inventé pour moi-même, mais c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est d'avoir une attitude de gratitude. D'accord? C'est d'essayer de cultiver une attitude de gratitude. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi, il veut prendre en otage toute ta vie pour peut-être une année de souffrance ou d'erreur ou de rejet. Et il essaie d'exploser toute ta vie, tous tes souvenirs, toutes les bonnes choses, pour une année d'horreur, ou peut-être deux années, ou trois années, je ne sais pas. Hein. Et c'est sa stratégie, c'est de voler la célébration. Par exemple, je vais parler de moi-même. Bon, moi j'ai une petite histoire, pas trop grave, mais quelquefois pour mon ministère, j'ai travaillé 30 années avec Horizon. 30 années. Donc c'est beaucoup 30 années. Et quelquefois, j'ai dit, il y a une petite heurte, mais c'est pas les gens, hein, c'est moi. C'est pas le château blanc, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est pas le château. Mais c'est, et quelquefois pour ces petites pensées qui vont, je veux tout, je dis oh mais pff, tout mon ministre c'est nul, tout. Et c'est comme si pour une blessure, une parole, un événement, Satan veut voler tout mon héritage. Mais je dis moi je refuse ça. Quelquefois, il y a les divorces et tout ça. Et quelquefois, on a quelquefois 5 années de galère, les dernières 5 années ou 2 années, je ne sais pas, 3 années. Mais quand même, il y a des moments où on était heureux. Et il doit avoir, quand on a fait la lune de miel, il y a quand même des moments où on a élevé des enfants et tout le reste. Il y a dû avoir au moins quelques moments de bonheur. Et je dirais, il faut célébrer les moments de bonheur. Il faut exprès dire, Satan, tu ne vas pas voler toute ma vie pour juste un moment de blessure. Je refuse, je vais célébrer ma vie et je vais te dire merci, Seigneur, pour tout ce que j'ai vécu. Merci. De cultiver une attitude de gratitude, ça détruit le royaume sombre de Satan sur ta vie. Parce que lui, il veut tout voler, c'est un voleur. Mais quand tu cultives une attitude de célébration et de gratitude, ça peut restaurer beaucoup de choses. Et donc là, il faut voir juste dans 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament, dernier chapitre, chapitre 5. Chapitre 5 et verset 18. Mais je vais lire 16 et 17 aussi, c'est les courts versets. C'est si vous voulez des conseils très courts de la Bible, c'est des bons conseils, mais c'est extravagant, c'est presque choquant. Tu dis, mais je ne crois pas à la Bible, je vais arracher cette page, parce que ça me scandalise devant mes blessures, devant mes difficultés. Parce que tout d'un coup, il te sort, l'apôtre Paul, verset 16, « Soyez toujours joyeux, mais bon, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Et après, il dit ceci, « En toutes circonstances, rendez grâce, attitude de gratitude. » Et je pense qu'il dit ça parce qu'il dit, je déteste tellement Satan que je veux détruire son royaume par la gratitude. Je pense même si tu dois serrer tes dents et dire merci, ça vaut la peine parce qu'on veut devenir bête. C'est le chemin vers l'amen. Cette célébration, cette gratitude est un don de Dieu. Je pense que c'est un don du Saint-Esprit. C'est très difficile de le faire uniquement par nos propres forces. Mais on peut demander au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi cette force, ce miracle de la gratitude. C'est un miracle, hein. Tu vois, et même les voisins, ils vont voir, mais comment est-ce qu'il peut être reconnaissant dans de telles circonstances? D'être reconnaissant pour la vie, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et je pense que la volonté de Dieu n'est pas que tu as souffert, mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois reconnaissant. C'est ça la volonté de Dieu, parce que ça nous donne la victoire. Donc, première chose, donne ta blessure à Jésus, à ses blessures. Contemple cette croix. La deuxième chose, c'est une attitude de gratitude. Et donc, la troisième chose, et ça, c'est très pratique, cette troisième chose. Très, très pratique. Et c'est ce que Samuel a fait. Et donc, faut tourner quelques pages. Et il faut voir en chapitre 12, toujours dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 12. Et après, il fait un dernier discours à ceux qui l'ont rejeté. C'est, voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Un dernier discours. Vous avez dit que j'étais vieux, que j'ai critiqué ma famille et tout ça. Voilà, mon dernier discours au peuple d'Israël. Et c'est incroyable ce qu'il dit. C'est incroyable ce qu'il dit. Je pense qu'il a eu ce temps avec Dieu. Il a eu cette attitude de gratitude. Merci pour la prière de ma mère. Anne, merci Seigneur de m'avoir fait grandir dans ton temple tout ce temps. Merci pour ce ministère de victoire que tu m'as donné. Merci, merci. Il a dû cultiver ça. Et après, une troisième chose, verset 23. 1 Samuel 12, verset 23. Il dit ceci devant ce peuple. « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Alléluia. C'est là où on voit la vraie victoire contre sa blessure, contre ce rejet. Il dit, je vais prier pour vous. Et il dit, loin de moi de pécher contre vous. Parce que c'est facile de pécher contre les gens. Par parole, par pensée. Moi, c'est facile de faire ça. Mais il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Et donc, il a prié pour ceux qu'ils l'ont rejeté. Alléluia. C'est très bien ça. Et peut-être les gens n'avaient pas le sentiment de l'avoir rejeté. Quelquefois, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des moments de quatre vérités. Pourquoi vous m'avez rejeté? Oh, on ne savait pas quand ta tête est bleue. Tu sais, quelquefois, ça choque et ça a empiré la situation. Quelquefois, tout sort et ça empire. Quelquefois, il faut le dire, mais quelquefois, ça crée plus de problèmes. De faire d'un grand... Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'une manière complètement anonyme. Vous pouvez prier pour ceux qui vous ont rejeté. Et Samuel arrive à faire ça. Il prie toujours. Et je dois dire que quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup aidé, le verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Et il a gardé un peu cette... C'est pas assez de grandeur. Il est devenu vraiment bêta parce qu'il a prié pour ceux qui l'ont blessé. Et même Jésus, hein, dans les béatitudes et tout ça, il met la barre très haute. Il dit, bon, il faut pardonner, il faut même aimer vos ennemis. Bon, mais alors, arrête Jésus. Mais ça, priez pour ceux qui vous ont rejeté. Ça, c'est une très bonne chose à faire. Et finalement, c'est le seul chemin de guérison. Je dirais, c'est très pratique. Quand vous sentez, même la nuit, si vous sentez monter, c'est souvent la colère ou la critique ou les inquiétudes, on est mal à l'aise avec une pensée d'une conversation ou quelque chose que quelqu'un a dit. Et ça, c'est là. Et après, l'ennemi, il va mettre un peu de sel, du poivre là-dessus, il va remuer, il va... Mais dans ce moment-là, si vous pouvez, d'accord, cette personne, comment il s'appelle, voilà, Seigneur, bénis cette personne. Je prie pour cette personne. Seigneur, je prie. Et merci pour tout ce que... Pensez à un moment où c'était bien avec cette... Merci pour ce qu'on... Merci pour ma vie. Et Seigneur, je te donne tout ce qui est difficile en moi. Ça aide. Ça aide. On peut dormir. On peut dormir. Crie à Dieu. Notre christianisme est très pratique. Mais juste pour terminer, dans le Nouveau Testament, il y a une grande histoire de blessure. Et c'est en Jean chapitre 20. Et c'est quand Jésus, il revient après la résurrection. C'est fantastique. C'est en Jean chapitre 20, à partir de verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc on voit ça, les portes fermées, la crainte. Alors là, je pense que les disciples, ils auraient pu devenir amers. Hein? C'est crainte, les Juifs. Mais Jésus est venu pour les sauver, pour les aider. Et donc Jésus, il passe par le mur, hein? Ça c'est bien sûr, il passe par les portes fermées. Jésus vient et debout au milieu d'eux, il leur dit « Shalom, que la paix soit avec vous ». Et après, quand il a dit « Shalom », il fait quelque chose de bizarre. Il dit « Paix !» Mais après, il dit « Regarde mes blessures. Wow. Regarde mes blessures. Regarde ici. Regarde ici. » Et les disciples sont contents de voir Jésus. Mais après, il dit « Shalom !» Vous avez bien regardé. Vous avez bien regardé mes blessures. Et après, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et donc Jésus, il était envoyé comment? Il était envoyé pour recevoir des blessures. Et il a dit, c'est comme ça que j'ai été envoyé, pour recevoir le rejet, pour recevoir un tas de choses, un tas de blessures. Et vous aussi, je vous envoie dans ce monde. Et vous allez recevoir des blessures. Mais vos blessures ne vous disqualifie pas. Vos blessures ne vous disqualifient pas d'être envoyé. Quelquefois, les gens disent, « Oh, je dois être parfait, Superman, je dois être entier, jamais pleurer. » Non, 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 non. Je dirais que, quelquefois, on peut dire que la blessure, c'est même un envoi. La blessure, je dirais, la blessure guérit. La blessure transfigurée, c'est encore un envoi dans le ministère. Parce que ça nous donne encore cette capacité de comprendre, de compatir, de souffrir, de grandir, de devenir meilleur au travers de cette blessure, au travers de cette grâce, au travers de ce pardon. Parce que bon, la vie facile, Jésus, c'est que la théorie. C'est que la théorie. Mais quand quelqu'un parle de... Peut-être ils ont su aller au-delà de leurs blessures tout en portant les cicatrices. Vous savez, l'agneau qui est crucifié au cœur du trône en Apocalypse 5, on voit l'agneau de Dieu au cœur du trône de Dieu et il est comme immolé. Les blessures de Jésus dans le ciel ne sont pas infectées. Quand les anges voient les blessures de Jésus, ils ne voient pas des mouches qui sont en train de tourner autour. Il n'y a pas de l'infection. Il y a des blessures, mais c'est comme si ces blessures brillent. C'est comme si ces blessures sont transfigurées par la gloire. Il y a une force qui émane de ces blessures pour sauver le monde. Et c'est la même chose pour nous. Dieu peut toucher notre blessure, nous envoyer même avec cette blessure dans le monde comme lui, mais une blessure transfigurée. Seigneur, je te donne ma blessure. Une attitude de gratitude. Je vais prier, je vais pardonner. Ce n'est pas automatique, c'est tout un chemin, c'est tout un apprentissage, peut-être à renouveler chaque jour, chaque mois. Peut-être il y a des moments quand ça marche bien, on se sent super. Peut-être il y a des moments quand une ancienne blessure va se réveiller. Mais chaque fois, priez pour ceux qui vont. Loin de moi de pécher contre l'Éternel. Mais peut-être il y a une dernière chose que j'aurais dû dire au départ. Verset 22. Après ces paroles, je vous envoie avec votre blessure. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Deuxième souffle. J'avais besoin de ce souffle. Souffle sur moi, Seigneur. Recevez l'Esprit Saint. Et après, il dit ceci, très pratique. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Waouh, je peux pardonner. Et il dit, mais vous avez aussi la possibilité de ne pas les pardonner. Après, tout sera retenu. Ce n'est pas l'autorité qu'on a d'être un prêtre, tout ça, mais c'est pour nous d'avoir le pouvoir de pardonner. Je prie pour ceux qui m'ont blessé. Et pour ça, il faut le Saint-Esprit. Souffle sur moi, Jésus. Souffle sur moi, Jésus. Et là, ce souffle de Jésus, c'est très intime. Ce n'est pas Pentecôte, ce n'est pas le grand vent qui les décoiffe. C'est très, très intime. Et je pense que ces choses sont intimes. Ces choses sont très intimes. Nos blessures et tout ça, c'est intime. Et donc, on ce n'est pas public avec un grand vent. C'est dans l'intimité de la prière, quelquefois même de la souffrance, où Jésus il va juste souffler sur nous, dans notre oreille, sur notre visage. Je ne sais pas comment Jésus l'a fait. C'est pas... Mais Jésus veut souffler sur nous pour nous donner la possibilité d'avoir un deuxième souffle, un second souffle, pour terminer notre course, même en courant avec une blessure. Et d'être envoyé, un nouvel envoi dans le monde pour témoigner de sa grâce et de sa gloire. Allez, je vais prier. Seigneur, Seigneur. Oh Jésus, souffle sur nous ce matin. Donne-nous, Seigneur, ce deuxième souffle pour que nous puissions terminer notre course. Seigneur, si des anciennes blessures se réveillent en nous de temps en temps, Seigneur, et les sentiments de rejet et d'autres choses, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous aider à gérer tout ça. Seigneur, tu as pris ma blessure. Tu es devenu rejet pour que moi je puisse être embrassé dans ta famille, pour que je puisse recevoir ton amour, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, guéris-moi là où je me sens rejeté, Seigneur. Et Seigneur, donne-moi de pouvoir avoir cette attitude de gratitude. Je refuse de laisser l'ennemi, Seigneur, prendre en otage toute ma vie, toutes mes belles années à cause d'une blessure. Seigneur, je veux célébrer ma vie de nouveau. Je veux célébrer tout ce que j'ai pu faire pour toi et tout ce que j'ai pu aimer un jour, tout ce que j'ai pu, Seigneur, oui, vivre avec. Oh, merci Seigneur. Seigneur, restaure la célébration à ma vie, la reconnaissance. Et Seigneur, donne-moi cette grâce et cette volonté et cette capacité surnaturelle même de prier pour ceux qui m'ont rejeté, Seigneur. Et souffle sur moi. Souffle sur nous tous. Ce matin, Seigneur, souffle sur ton Église et donne-lui ce pouvoir du pardon. Au nom de Jésus. Amen.